Les combats contre l'État islamique en Syrie ne sont pas terminés, contrairement à la version officielle. C'est encore très dangereux, notamment à Barouz, le dernier bastion des djihadistes en Syrie, où des frappes contre l'État islamique ont eu lieu directement encore aujourd'hui. À un autre endroit aussi en Syrie, l'État islamique revendique 7 morts parmi les forces de la coalition. C'est donc une mission très dangereuse pour notre collègue envoyé spécial du 98.5, Fabrice de Pierrebourg, que nous retrouvons en début de soirée pour lui, dans le nord-est de la Syrie. Bonsoir, Fabrice.
Bonsoir, Paul.
Oui, parle-nous de ta journée, Fabrice.
Bah, une journée un peu mouvementée. Disons qu'on est parti hier matin du nord-est de la Syrie pour se rendre à Barouz. Barouz, c'est ce village dont tout le monde a entendu parler, qui est un peu le village symbole de la chute du califat, ce fameux territoire du groupe armé État islamique qui imaginait à l'été 2014, était grand comme la Grande-Bretagne. Et en janvier, ça a fini dans ce petit village pour achever ce week-end dans une espèce de réduit qu'on a visité cet après-midi au bord de l'Euphrate, le fleuve Euphrate, pas très loin de la frontière irakienne. Et de l'autre côté du fleuve Euphrate, en face de nous, il y avait les troupes du régime de Damas. Et on est arrivé là après une journée de route. Il y a beaucoup, beaucoup de barrages, Paul, comme vous pouvez l'imaginer. Faire 200 à 300 kilomètres en Syrie, dans un pays en guerre, ou dans des endroits où les combats ont terminé depuis un moment, c'est très compliqué. Il faut souvent prendre des détours, rouler dans le désert, passer ses points de contrôle. Et depuis hier soir, on attendait l'autorisation de rentrer dans cette ville de Barouz, qui a été officiellement libérée ce week-end. Ce matin, on nous a dit « c'est bon, on pouvait y aller ». On est parti à 8 heures du matin d'un camp en arrière, à une quarantaine de kilomètres. On est arrivé donc dans Barouz. Avant d'arriver à Barouz, ce n'était, Paul, que désolation. Il n'y a pas un village qui tenait debout. Tout était détruit à cause de mois et de mois de combats qui ont eu lieu dans la région. Et quand on est rentré dans Barouz, au départ, il y avait quelques maisons. Et puis très vite, on est arrivé dans cette fameuse poche où c'est complètement incroyable d'y penser encore. Il y avait des milliers de combattants djihadistes, dont des étrangers, leurs femmes et des enfants, qui étaient acculés là au bord de la rivière. Ils ne pouvaient pas traverser parce qu'en face, il y avait le régime. Et ils ont subi des bombardements intenses pendant près de 2 mois. Paul, on dirait une espèce de Capharnaüm. Évidemment, il n'y a pas de maison. Ils couchaient dans des tentes. Ils avaient creusé des tranchées. Il y avait des véhicules partout, certains avec des plaques d'immatriculation irakienne, des motos, des mobylettes et des camions-citernes. Et tout ça a été calciné, retourné par les bombardements. Et subitement, au bout de 20 minutes, on nous avait dit « vous avez le droit d'être là que 30 minutes parce que c'est dangereux ». Il peut y avoir encore des tireurs embusqués ou des cellules un peu partout. On a entendu des avions dans le ciel, des avions de chasse, Paul, mais on n'a pas vraiment fait attention. J'étais avec 3 autres journalistes. On était 4 journalistes occidentaux à pouvoir rentrer. Et très vite, d'un seul coup, ça a été 2 détonations très fortes à environ 500-800 mètres de nous. Et là, les Kurdes ont dit « il faut partir, vous devez vous en aller ». Donc, ils nous ont remis dans des véhicules. Au moment où on retraitait vers l'arrière, paf, encore des bruits d'avions, 2 autres frappes. Et ça finit là. Mais je vous dis que c'était évidemment assez spécial parce que officiellement les combats sont terminés. On sait bien que tout ça c'est une question aussi de propagande parce que oui, en fait, le groupe armé islamique a perdu son territoire, mais il est toujours actif. Et ça a eu, même si beaucoup ont été capturés, figurez-vous que il y a une dizaine de jours, les Kurdes disaient, la coalition arabo-kurde avait capturé 25 000 djihadistes qui sortaient de ce village et en avoir tué 1 600. On sait qu'il y a aussi beaucoup de femmes et d'enfants qui sont dans des camps, dont des Canadiens et des Canadiennes, y compris des gens de Montréal. Et là, subitement, ces frappes, on pouvait quoi? C'est que forcément, il y a encore des djihadistes qui sont dans ce petit réduit. On nous a dit qu'ils étaient peut-être dans des tunnels. On a voulu voir ces tunnels, on nous a refusé l'accès. On a voulu savoir aussi quel était le bilan humain, Paul, de ces 2 mois de combat. Parce que ce matin, il n'y avait pas de cadavres. Je suis un peu morbide, là, mais on est arrivé dans une zone où il n'y avait pas de corps. On leur a demandé combien il y avait eu de morts, y compris parmi les femmes et les enfants. On a refusé de nous le dire. Mais c'est évident que ce califat finit dans une espèce de scénario d'apocalypse.
Merci beaucoup pour ce reportage, Fabrice de Pierrebourg. Et soyez prudent.
Oui, toujours, Paul. Merci.
Au revoir. La preuve, c'est qu'encore des poches de résistance frappent. Ce matin, 7 combattants des forces anti-djihadistes arabo-kurdes ont été tués au village de Minbej. Ils ont été pris dans un traquenard qui avait été tendu par des membres du groupe État islamique qui refusent de se rendre. Donc, comme l'a expliqué Fabrice de Pierrebout, il y a encore des poches de résistance. Eh bien, ils ont tué 7 combattants des forces anti-djihadistes. Ça demeure encore, donc, une région extrêmement dangereuse, malgré le fait qu'on ait proclamé, autant du côté de Washington que du côté des forces de la coalition, des forces anti-djihadistes, que le fameux califat, le rêve de grand pays, si on veut, du groupe État islamique, était absolument annihilé. On avait dit ça en fin de semaine, mais comme Fabrice vient de le dire, région très dangereuse, avec encore des résistants.